Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Didier Burgot, qui est un invité très particulier pour moi. D'une part parce qu'on se connaît depuis longtemps, et d'autre part parce que nous avons une double affinité, professionnelle et musicale. Professionnelle, car Didier est consultant en management et en ressources humaines, et que je suis coach. Musicale, car si je suis modeste contrebassiste de jazz amateur, Didier est quant à lui clarinettiste de jazz, arrangeur, chef d'orchestre et chanteur. Nous aimons, chacun à notre manière, faire le pont entre ces deux mondes, et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, le monde de la musique et le monde de l'entreprise. Allez, c'est parti, et je vais d'abord laisser Didier nous en dire plus sur lui.
Eh bien, bonjour Jean-Marc. Moi aussi, je suis ravi que tu aies pu m'inviter à ce podcast. En quelques mots, j'ai une carrière double, à la fois dans le conseil et dans l'entreprise. Et j'ai, on va dire, plusieurs familles de compétences, puisque comme tu l'as rappelé, je suis consultant en management. Et je suis aussi musicien de jazz et ayant commencé très petit, j'ai eu la chance de ne jamais arrêter de faire de la musique et de continuer tout au long de ma carrière en parallèle, ce qui me permet de jouer aujourd'hui à un niveau professionnel avec des musiciens professionnels. J'ai un parcours à la fois dans l'entreprise à des postes de direction marketing international dans des grands groupes et de conseil dans des structures de taille réduite et plus importante. Et aujourd'hui, je dirige la partie conseil d'un cabinet de conseil en management qui s'appelle Qualintra, qui est basé à Genève et à Paris.
En plus de ce parcours musical, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tu as sorti cette année, je crois, un disque, un CD en quintette, en hommage à Chet Baker. Donc le CD s'appelle d'ailleurs Chet in Mind, un quintet que tu as constitué et où tu as écrit ou co-écrit l'essentiel des arrangements.
Absolument, c'est un projet que je porte depuis plus de 2 ans. Le Covid étant passé par là, ça nous a évidemment pas mal freiné par rapport au rythme qui était prévu de production et de sortie du disque. C'est un disque en quintette avec un trompettiste formidable qui joue le rôle de Chet trompettiste. Et moi, je chante dans ce disque et je tiens donc la partie vocale de Chet, sachant que je joue aussi du saxophone ténor et de la clarinette, et que l'ensemble des morceaux sont arrangés par moi et mon ami contrebassiste Simon Teboul, chez qui d'ailleurs on a enregistré ce disque, qui est produit par Camille Productions et qui est disponible dans tous les bons disquaires.
Qu'est-ce que le jazz, Didier, a à nous apprendre finalement sur le leadership, la créativité, le management? Et en quoi est-ce que c'est... moi, j'ai coutume de dire que c'est une métaphore. Toi, tu dis non, c'est beaucoup plus qu'une métaphore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer?
Oui, alors peut-être en préambule, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la combinaison de ces deux compétences m'a conduit à développer des séminaires et des conférences interactives que j'anime pour des dirigeants et des managers sur jazz et leadership. Parce que, effectivement, pour moi, le jazz n'est pas une métaphore. Un petit orchestre de jazz, et c'est pour ça que j'anime ces séminaires, ces formations, ces conférences avec un quartet de jazz, donc piano, basse, batterie et moi devant aux hanches. Parce que un petit orchestre de jazz est une des rares organisations conçues pour générer de la confiance, de la coopération, de la créativité. Et à travers l'observation et la pratique, puisque je fais participer le public à un certain nombre d'exercices et d'ateliers, je leur fais toucher du doigt, par le détour pédagogique du jazz, un certain nombre de compétences critiques dans l'exercice de leurs fonctions, puisque ces gens-là doivent démontrer des comportements extrêmement importants tels que la prise de risque, le lâcher prise, la confiance, l'écoute, la coopération, la collaboration, la confiance, la capacité à faire preuve de créativité et d'innovation. Et tout cela, ce sont des compétences qu'on va retrouver à travers le jazz.
Et pourquoi cette métaphore, ou c'est plus qu'une métaphore, de l'orchestre de jazz et non pas tout simplement de la musique? C'est-à-dire en quoi est-ce que finalement la confiance... l'écoute, est plus importante, plus indispensable dans une petite formation de jazz que dans une autre formation musicale.
Là où tu as raison, c'est que les deux compétences que tu as retenues, collaboration et écoute par exemple, on va les retrouver effectivement dans n'importe quelle structure musicale, j'ai envie de dire n'importe quelle structure collective. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la confiance et de l'écoute et de la collaboration. Ce qui va faire la différence, c'est que si on fait la comparaison entre un orchestre symphonique, que je connais bien, puisque moi j'ai un parcours à la fois classique et de jazz, j'ai un prix de clarinette et un prix de musique de chambre, donc j'ai beaucoup pratiqué l'orchestre classique. Dans un orchestre classique, on a un chef d'orchestre et on joue une partition. Alors on peut, lorsqu'on est un soliste brillant, y apporter sa propre interprétation, sa propre couleur. Néanmoins, on reste contraint de jouer la partition, les notes qui ont été écrites par le compositeur, et on reste contraint d'appliquer les indications et les informations que vous donne le chef d'orchestre. Dans un petit orchestre de jazz, la base de cette musique, c'est l'improvisation. Et ça veut dire improviser, ça vient du latin improvisus, qui n'est pas préparé, qui arrive de façon inattendue. Et cette improvisation, elle est l'essence du jazz, elle est aussi aujourd'hui, compte tenu de l'environnement extrêmement mouvant dans lequel évoluent les entreprises, elle est l'essence du dirigeant, l'essence du manager.
Ce qu'on peut peut-être dire pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le jazz, c'est qu'un musicien de jazz, il peut tenir, entre guillemets, 10 minutes, 30 minutes et même plus, avec des fois une partition qui tient sur une seule page. Hein, c'est-à-dire, ça va être 12 ou 32 mesures, une mélodie, une grille d'accords, et puis c'est tout.
C'est vrai, le musicien de jazz, c'est un musicien de l'instant. C'est un musicien qui réinvente en permanence sa propre musique. Et d'ailleurs, toi qui es jazzman aussi, tu le sais bien, si on n'enregistre pas l'improvisation d'un musicien de jazz sur l'instant, il y a très très peu de chances qu'on puisse capturer de nouveau la même musique. Parce que par essence, cette improvisation est une création spontanée qui va, au fur et à mesure de son exécution, se transformer et prendre des couleurs et des notes différentes.
Ce que tu expliques, c'est que déjà dans une petite formation de jazz, donc chacun des musiciens est tour à tour leader, typiquement lorsque c'est lui le soliste, et accompagnateur, et que cela tourne au sein même de l'interprétation d'un même morceau.
Ce que tu soulignes pour moi est absolument fondamental. L'idée que j'aime bien dans ce que tu viens d'exposer, c'est que le jazz peut offrir un modèle alternatif au management traditionnel. C'est-à-dire que dans une petite formation de jazz, on est tour à tour soliste et accompagnateur. Ce qui veut dire que tour à tour, on prend le lead. C'est-à-dire qu'on va être au premier plan, on va être sur le devant de la scène et le projecteur va être tourné vers nous. Et le coup d'après, on va se trouver en support, et d'ailleurs le parallèle avec les fonctions support dans l'entreprise est extrêmement intéressant, on va se retrouver en support des autres, ce qui génère et comment dirais-je, force un petit peu cette coopération, pour le dire avec humour. Si moi j'accompagne mal mon petit camarade, il y a de fortes chances qu'il me rende l'appareil. Donc il y a une espèce d'obligation, tous, à jouer dans le même esprit pour obtenir à la fin un produit de qualité et quelque chose de beau.
Alors, l'improvisation, non, je ne sais plus qui disait l'improvisation ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'évidemment, en tant que musicien, pour improviser, il faut que j'ai une connaissance, évidemment, de mon instrument, pour commencer. Ensuite, de l'harmonie, évidemment, un bon sens du rythme, etc. Donc, il faut que je maîtrise un certain nombre de codes et de langages et que je les partage avec les petits camarades avec qui je joue. Mais même en ayant tout cela, et en ayant tout cela à un bon niveau, c'est quand même, à un moment donné, une prise de risque et un saut dans le vide. Je me lance en espérant que j'aurai un contrebassiste pour me donner le tempo, un batteur pour me le transmettre, un pianiste ou un guitariste pour me faire un support harmonique et que tout ça se passera en bonne intelligence. Et il y a des possibilités d'erreur.
Avant de répondre sur ce point prise de risque, qui est évidemment fondamental et inhérent à l'improvisation, je voudrais revenir sur un point très important que tu soulignes, qui est la préparation. Les gens qui ne sont pas familiers avec le jazz sont toujours épatés, parce que d'abord ça a l'air si facile, et puis ensuite, une improvisation, ça, on a l'impression que les gens, ça y est, ils sortent leur instrument, ils improvisent sans avoir jamais pensé à ce qui allait se passer. En réalité, on ne peut improviser correctement que si on a travaillé son instrument. Donc la préparation, c'est évidemment le travail de l'instrument. C'est aussi le travail de l'harmonie, parce qu'on improvise, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le cours de notre échange, on improvise sur une grille harmonique, sur une trame harmonique, sur une succession d'accords qui composent la base harmonique du morceau. Préparer, c'est aussi travailler d'une certaine façon l'improvisation, travailler son instrument sur la base de ce canevas harmonique, et puis c'est aussi connaître les morceaux. Pour reprendre le parallèle avec la musique classique tout à l'heure, le musicien de jazz doit traiter, les anglo-saxons diraient processer, un nombre de données qui est beaucoup plus important qu'un musicien classique. Il doit maîtriser son instrument comme le musicien classique, il doit connaître vraisemblablement par cœur un très grand nombre de morceaux, parce qu'il est amené à jouer des standards qui font partie d'une espèce de fond culturel commun à tous les musiciens de jazz. Il doit très très bien connaître l'harmonie, parce que s'il ne connaît pas l'harmonie, il ne sait pas improviser correctement sur les changements d'accords qui passent. Et puis, il doit également bien comprendre les styles musicaux pour improviser dans le style. On ne joue pas du bebop comme on joue du Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'est la réponse à la préparation. Maintenant, pour aller sur le sujet qui est celui que tu as évoqué à l'instant, sur la prise de risque. Oui, l'improvisation, c'est prendre des risques. C'est dire quoi ? C'est dire oui à l'inconnu, parce que au moment où on démarre son improvisation, on ne sait pas ce qu'on va jouer. On ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour être capable de prendre ce risque, c'est-à-dire de dire oui à l'inconnu, oui au chaos, comme dirait mon ami Frank Barrett, qui a écrit un livre formidable sur le jazz et le leadership, pour dire oui au chaos, il faut avoir confiance dans l'environnement qui est l'environnement musical proposé par l'orchestre. Et c'est parce qu'il y a cette confiance entre les musiciens qu'on accepte de prendre des risques. Il y a même des fois, il y a certains enregistrements de jazz où le musicien joue une fausse note qu'on entend, et on entend derrière tout l'orchestre changer les harmonies pour récupérer le soliste, pour que le public n'ait pas l'impression que c'est une fausse note. Et je finirai peut-être sur ce droit à l'erreur, c'est-à-dire que c'est extrêmement lié à la confiance et à la notion de prise de risque. C'est-à-dire que Miles Davis disait « If you don't make mistakes, that's a mistake. » Si vous ne faites pas d'erreur, c'est une erreur. L'erreur est inhérente au processus d'expérimentation, et dans le jazz, c'est incontournable.
Ce que disait Miles Davis, c'est « Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous n'allez pas assez loin. » C'est que vous ne vous rapprochez pas de vos limites. Pour savoir où sont nos limites, il faut de temps en temps un peu les dépasser. Et donc finalement, ce qui permet l'improvisation, moi je retiens deux choses de ce que tu dis, c'est qu'il faut à la fois un cadre conceptuel, formel, donc une culture commune, une connaissance de l'instrument, de l'harmonie, de la théorie, et il faut aussi un cadre relationnel, c'est-à-dire je sais que je peux compter sur les musiciens qui jouent avec moi, et je connais éventuellement leurs atouts respectifs et leurs limites respectives, et comme eux connaissent évidemment les miennes, parce que quartet de jazz, ce n'est pas nécessairement le quartet ou le quintet de Miles Davis. C'est le fait de bien se connaître mutuellement qui va aussi permettre, j'imagine, de rendre cette improvisation aussi ambitieuse que possible.
Et cela s'appuie sur l'ouverture. C'est-à-dire que dans un petit orchestre de jazz, chacun a le droit d'improviser, de prendre un solo quand il le veut, s'il le veut. Et c'est cette ouverture aussi qui génère cette confiance et cet échange. C'est-à-dire que chacun sait que s'il a envie de jouer, ben il aura l'espace nécessaire pour le faire. Et en revanche, si pour des tas de raisons, il n'a pas envie d'improviser ou il n'a pas envie de prendre un solo, ça ne lui sera pas reproché. Et ça contribue beaucoup à la création d'un espace de confiance, parce que la place est laissée à l'autre dans toutes les dimensions, à la fois dans la liberté de jouer ou de ne pas jouer, mais aussi dans la capacité d'accepter des morceaux que chacun va proposer. On a tous, en tant que musicien, des centaines de standards à notre actif. Dans l'hypothèse où on arrive le jour du concert en n'ayant pas joué les uns avec les autres, ça peut arriver aussi, eh bien, on va se mettre d'accord sur un répertoire commun, qui est, si je fais un parallèle avec l'entreprise, un fonds de valeur ou d'activité ou de mission commune. Et c'est parce qu'on va se retrouver sur ce fonds culturel qu'on va produire encore une fois une belle musique.
They're writing songs of love, but not for me. Lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I'll find more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hey, oh, love. And oh, so like a day. Although I can dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
On a coutume de dire que la créativité, il y a beaucoup d'artistes qui disent ça, que la créativité nécessite la contrainte. En littérature, on va le trouver dans des cas extrêmes comme l'école de l'Oulipo, par exemple, ou Georges Perec qui s'est fixé la contrainte démentielle d'écrire un livre entier sans la lettre E, ce qui en français est absolument inconcevable. Est-ce que tu pourrais développer cette notion de liberté dans un cadre, Didier ?
Oui, alors je commencerai par répondre peut-être par un clin d'œil. Ella Fitzgerald, cette très très grande chanteuse de jazz, avait l'habitude de dire « le jazz c'est n'importe quoi, mais pas n'importe comment ». Et derrière cela, ça veut dire effectivement qu'on improvise, mais on n'improvise pas comme on pourrait se l'imaginer de façon totalement débridée, en se libérant totalement d'un certain nombre de règles ou de contraintes. Et j'aime bien ton expression « liberté dans un cadre » parce que, en tout cas dans le jazz, jusque dans les années 50, avant l'arrivée du free jazz, le jazz que je joue en tout cas s'appuie sur des morceaux qui ont une trame harmonique. Je vais essayer de ne pas être trop compliqué pour nos auditeurs. Il faut essayer de disséquer la musique en deux choses. D'un côté, les notes qui constituent la mélodie du morceau, et de l'autre côté, des accords qui en constituent les fondements et qui en constituent les bases. Si je ne regarde que les accords, je peux, avec la suite de ces accords, en gardant le morceau et en retirant les notes, remplacer toutes les notes qu'on joue par d'autres notes. C'est ça l'improvisation, à partir du moment où on conserve les accords qui constituent le canevas du morceau. Donc, l'improvisation consiste finalement à respecter l'enchaînement des accords et à respecter cette trame harmonique, et dans le cadre de cette trame harmonique, de jouer les notes qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, au rythme qu'on veut.
Un petit peu comme en entreprise, je peux faire ce que je veux dans la limite des objectifs qui me sont donnés, des moyens qui me sont alloués et des processus informatiques, par exemple, que je me dois d'utiliser.
Mais absolument, et j'irai même un peu plus loin, si je garde le parallèle que tu fais avec l'entreprise et les processus sont souvent vécus comme des contraintes. Eh bien, l'approche du jazz permet de se dire, tiens, le processus c'est un cadre, et dans le cadre de ce processus, je peux faire à peu près ce que je veux. Et je peux donc me l'approprier à partir du moment où j'en respecte les limites.
Et si je refais le parallèle dans l'autre sens, tout ceci est bel et bon à condition que ma grille d'accords ne soit pas trop complexe. Parce que moi, alors j'ai pas ton niveau, mais si la grille d'accords, s'il y a quatre accords par mesure et des accords très biscornus, il y a un moment, je vais déjà avoir du mal à les suivre. Alors improviser dessus, n'en parlons même plus.
C'est très amusant ce que tu dis parce que une de nos tâches parfois consiste à simplifier les accords et à simplifier la grille harmonique pour qu'on puisse plus facilement improviser dessus. Et là, le parallèle avec l'entreprise est évidemment très très très
Ce qu'on
très
appelle en
proche.
musique réharmoniser. Mais est-ce que c'est toujours possible de réharmoniser en entreprise? En tout cas, ce n'est peut-être pas donné à n'importe qui dans la.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souffrent d'une grande complexité. Et moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'être aussi complexe en interne que l'est votre environnement. Et donc, comment vous assurer que vos processus ne sont pas trop complexes pour favoriser la créativité, l'innovation, pourquoi pas l'improvisation?
Il faut un cadre, il faut une structure. Mais au-delà de la dose prescrite, hein, c'est un peu comme comme un médicament ou beaucoup d'autres choses peut l'étouffer, en fait.
C'est exactement ça.
Alors, si on continue le parallèle, Didier, parce que donc, la grille harmonique, on fait le parallèle avec les process en entreprise, le tempo, le fameux tempo que donne le jazzman au début du morceau, ça serait quoi en entreprise?
Alors, donner le tempo pour nous, musiciens, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est beaucoup plus que donner une indication de vitesse. C'est projeter l'orchestre dans le produit final, c'est projeter l'orchestre dans la réalisation musicale. C'est un peu comme si, en entreprise, on lançait un projet ou on démarrait une réunion. Donner le tempo, c'est donner de la vision et donner de la perspective. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que en jazz, un peu moins en classique, parce que les tempos, là aussi, les tempi, là aussi, sont, comment dirais-je, prescrits par les compositeurs. Mais en jazz, où on peut vraiment avoir beaucoup de liberté, il existe des morceaux qui sont interprétés avec des tempi différents, et parfois ce sont des morceaux différents, tellement le tempo a une incidence sur l'expression mélodique, l'interprétation, l'exécution même du morceau. Donc pour un chef d'orchestre, donner le tempo, c'est pour ça que souvent les musiciens de jazz, on les voit prendre leur temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Parce qu'ils s'assurent que tous les musiciens sont prêts, que tous les musiciens sont bien alignés, pour reprendre un mot d'entreprise, sur le tempo que le chef d'orchestre va donner.
Transposé à l'entreprise, donc tu parles d'alignement sur une vision, sur une stratégie.
Sur un projet, sur un projet. Quand le chef d'orchestre donne son tempo, il a une vision du morceau et de ce qu'il veut atteindre. Peut-être la différence, d'ailleurs, c'est intéressant si on continue,
Ouais.
alors là, du coup, à filer cette métaphore, parce que c'est bien, ou à poursuivre ce parallèle. Le tempo peut être mis en cause. C'est-à-dire que moi, quand je suis chef d'orchestre, parce que ça tourne, de temps en temps, c'est pas moi, de temps en temps, il m'arrive simplement de jouer comme un sideman, c'est-à-dire comme un musicien dans l'orchestre, c'est pas moi qui suis le chef d'orchestre. Mais lorsque le chef d'orchestre donne le tempo, il lui arrive de poser la question, est-ce que ça vous va? Parce que on peut tous ne pas être d'accord sur un tempo. Moi, je peux trouver que c'est trop lent, un autre peut trouver que c'est trop rapide. Et donc, avant de donner le tempo définitif, très souvent, le chef d'orchestre se retourne pour dire, ok, ça vous va?
Tu vois, le parallèle que je pourrais faire, c'est qu'en jazz, on peut éventuellement ralentir ou accélérer un peu le tempo si les musiciens le souhaitent ou si ça leur permet de faire quelque chose de plus beau ou de plus créatif. Également, pour certains instruments ou encore bien davantage, s'il y a un chanteur ou une chanteuse, on peut décider de monter ou de descendre la tonalité du morceau pour qu'elle soit plus praticable pour l'interprète. Donc l'équivalent en entreprise, je me dis que ce serait prendre en compte finalement les compétences et les limites de chacun.
Oui, et le parallèle pourrait être avec l'écoute. C'est-à-dire que demander l'avis des musiciens sur le tempo, c'est aussi écouter leurs attentes. En entreprise, ce qu'on observe très souvent, c'est qu'il peut y avoir une accumulation de priorités. Il peut y avoir des moments où il y a une très forte tension dans tous les sens et où il peut être nécessaire de ralentir, d'élaguer le nombre de priorités. Et c'est en demandant l'avis et c'est en écoutant les collaborateurs et les équipes qu'il va être possible d'identifier ce sur quoi on peut aller plus ou moins vite et ce sur quoi on peut tout simplement décider de décaler les livrables dont tu parlais.
Comment cela se passe finalement pour se développer en tant qu'orchestre, en termes de qualité de performance? Comment est-ce qu'on parvient au fil du temps à développer l'intelligence collective?
Alors d'abord, le feedback, on s'en donne et on l'accepte parce que j'ai la chance, si je prends mon exemple, de travailler avec des musiciens qui sont de très 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 haut niveau. Quand quelqu'un comme Brice, le trompettiste, ou Simon, le contrebassiste, me font des remarques sur, à un moment, la justesse ou sur telle note que j'aurais pu faire différemment, ben oui, je l'écoute et je l'entends. Et j'accepte. Et je retravaille dans cette direction-là. Ensuite, à travers les concerts qu'on fait, on a la chance parfois d'être enregistré. J'écoute avec beaucoup d'attention les enregistrements pour voir ce que j'aurais pu faire mieux, différemment, de façon plus musicale. Donc le feedback, on l'accepte et on le prend en compte parce que on a un tel niveau de confiance et de respect mutuel qu'on sait qu'il va être donné avec bienveillance et dans un esprit de progrès. À côté de ça, comment on développe des compétences d'un orchestre? Il y a plusieurs façons de le faire. Première façon, c'est évidemment de travailler son instrument. C'est-à-dire qu'à notre niveau, il serait impensable de monter sur scène sans avoir retravaillé les arrangements, sans connaître les morceaux, sans savoir en gros la trame harmonique sur laquelle on va improviser. La deuxième façon de développer des compétences, c'est d'élargir le répertoire, d'apporter des morceaux qui vont être différents, avec des styles différents, d'apporter des morceaux qui vont être de plus en plus compliqués parce que ça fait monter le niveau collectif. Et puis, et ça peut te faire sourire, une des façons de se développer, c'est aussi de faire venir des musiciens différents dans l'orchestre. La notion de jam session, ou en français de faire le bœuf, elle est fondamentale, en particulier pour le développement. C'est-à-dire que c'est le principe qui consiste à accepter qu'un musicien qui ne fait pas partie de l'orchestre monte sur scène et joue un morceau, deux morceaux, dix morceaux avec l'orchestre, même s'il ne fait pas partie de cet orchestre constitué.
Les entreprises font-elles des jam sessions ?
Eh bien, ça, c'est intéressant. Elles devraient en faire. Elles peuvent le faire en accueillant des experts extérieurs, des consultants extérieurs, des gens dans d'autres horizons, des journalistes, des experts, des sociologues. Ça, c'est une façon de faire la jam session.
Kiss again. Seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends with one broken heart. We love to cry, and suddenly love died. The story ended. We're just friends.
Finalement, au terme de tous ces parallèles, en quoi est-ce que la pratique du jazz t'aide dans ton métier de consultant au quotidien ?
Alors, la pratique du jazz m'aide beaucoup et dans des sphères très différentes. D'abord, je suis amené à prendre la parole, à faire des présentations, à faire des conférences, à animer des groupes de travail, à animer des comités de direction. La pratique de la scène, la pratique de la relation avec le public, tout ce qui va tourner autour de voix, attitude, regard, m'aide énormément dans la façon dont je vais animer et comment dirais-je, convaincre. Donc ça, c'est la première partie. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est la pratique de l'improvisation. C'est-à-dire que je prépare toujours beaucoup toutes mes missions, toutes mes interventions. Et en même temps, je sais qu'à partir du moment où j'ai un cadre bien précis, je suis prêt à aller sur des terrains auxquels je ne m'attends pas. C'est-à-dire que je ne crains pas l'agenda caché, par exemple. Parce que je suis, comment dirais-je, je suis habitué à des choses qui risquent de se produire.
Ça t'aide à t'ajuster à une intervention inopinée du directeur général ou de ton donneur d'ordre ou d'un autre participant.
À des questions inattendues. Et puis, ça m'aide aussi beaucoup par rapport à la pensée latérale, think out of the box, penser différemment, parce que l'improvisation nous y prépare naturellement.
Peut-être, avant de te poser une dernière question, Didier, donc pour ceux de nos auditeurs qui voudraient aller plus loin sur ce thème, il y a notamment un livre que tu m'as fait découvrir, Didier, il y a déjà quelques temps, qui s'appelle « Jazz et leadership » de Frank Barrett, donc aux éditions Diateino, donc le sous-titre c'est « Oser l'improvisation ». Et le premier chapitre de ce livre, qui m'a marqué, s'intitule « Bousculer les routines, maîtriser l'art de désapprendre ». On en parlait il y a quelques minutes, et c'est un sujet dont j'ai senti qu'il t'inspirait aussi.
Oui, alors je connais bien Franck avec qui on
a joué. Ah, tu as joué avec lui.
Tout à l'heure, peut-être. Okay. Ce que dit Franck sur le jazz et le parallèle avec le leadership à travers ce que tu viens de dire, c'est il faut apprendre à désapprendre. Il y a une anecdote très intéressante, par exemple, Sonny Rollins, que tu connais sûrement, cet immense saxophoniste, dans les années 60, décide de se réinventer. Il avait l'impression de tourner en rond et pendant un an, il est allé travailler son saxophone sous un pont à New York, et à chaque fois qu'il se prenait à jouer deux fois la même phrase, il s'arrêtait et recommençait. Au bout d'un an, il avait changé entièrement son style et sa façon de jouer, il est rentré en studio avec son orchestre, il a produit un disque qui a été un succès planétaire qui s'appelait The Bridge. Dans Apprendre à désapprendre, il y a l'idée de regarder les choses sous un nouvel angle, de remettre en cause ses manières de faire, de remettre en cause ses processus, de re-questionner ses pratiques pour les améliorer et pour en faire une histoire différente, tout en s'appuyant sur les acquis, qui sont les acquis techniques, les acquis culturels, les acquis de connaissances et d'éducation. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on est dirigeant, quand on est manager, ben on s'aperçoit bien, si je prends l'exemple tout bête des réunions, au bout de 3-4 réunions mensuelles, on s'aperçoit que peut-être c'est soporifique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toujours dans le même ordre, avec toujours le même agenda. Et apprendre à désapprendre, ça veut dire accepter de regarder ce matériel de réunion et de se poser la question, qu'est-ce que j'en fais ? Comment j'en fais autre chose ? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que je peux envoyer à lire avant ? Du coup, on va gagner un temps sur le premier point de l'agenda. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire par d'autres ? Auquel cas, mon rôle va être différent et je peux aussi peut-être gagner du temps. Donc cet apprendre à désapprendre, il est fondamental pour le jazzman parce que ça veut dire qu'il a cette capacité de... Enfin, je dis jazzman, mais les auditeurs ont compris que c'est musicien / musicienne de jazz. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire du jazz et aujourd'hui qui marquent aussi la scène du jazz international. Et donc, apprendre à désapprendre, pour un musicien de jazz, c'est la capacité de remettre en cause et de se remettre en cause.
Alors, Didier, on approche de la fin de l'année. Là, nous enregistrons, nous sommes à la fin novembre 2022. Donc, on va s'approcher de la période des vœux. Que faut-il te souhaiter pour 2023 en guise de conclusion ?
Je crois qu'il faut me souhaiter que les entreprises s'ouvrent encore plus à cette belle musique parce que lorsque j'anime ces séminaires de jazz et leadership, c'est aussi une façon de leur faire découvrir cette musique. Donc, mon agenda caché, c'est qu'ils ressortent avec l'envie d'écouter davantage ce jazz. Ça, c'est un vœu. Et puis, si, est-ce que j'ai le droit d'en
oui,
émettre un deuxième ?
Oui, je crois que tu as un livre en préparation, il me semble.
Voilà, j'ai un livre qui sort le 5 janvier, donc ça sera vraiment dans la période des vœux, qui s'appelle Booster votre impact personnel et qui offre des tas de conseils, des tas de recommandations, des tas de tuyaux, des tas d'exemples pour toute personne ayant besoin de renforcer son impact personnel. Il peut s'agir d'inspirer davantage, il peut s'agir de s'affirmer davantage, il peut s'agir de convaincre, il peut s'agir de fédérer, de mobiliser, d'apprendre à dire non. Il paraît aux éditions EMS et c'est un livre qui se veut une sorte d'anti-manuel extrêmement pratique et concret.
Didier, il me reste à te remercier pour cette émission et puis à te dire surtout à très bientôt. Certainement, je serai ravi de venir faire le bœuf au petit journal. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. À bientôt, Didier.
À bientôt, Jean-Marc.
Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt !